VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 23 octobre 2015, en direct de Washington, Claire Morin-Gibourg et Michel Joseph. Mais tout d'abord, les titres. Congo, l'opposition au référendum annule sa manifestation pour aujourd'hui.
Ce vendredi, il va y avoir des manifestations de fin de campagne référendaire, mais un communiqué du gouvernement annule donc toutes les manifestations pour justement permettre que le dialogue ait lieu et que la tension soit seulement apaisée à la veille.
Gwelan Goussou, notre correspondant à Brazzaville.
Présidentielle en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, toujours favori.
Au Cameroun, des ONG dénoncent les conditions de détention des prisonniers.
La nourriture qu'on t'apporte, les grands bandits sont la cellule, les récupèrent. Donc toi, tu ne manges pas. Tu n'as pas de place pour te baigner. Tu n'as pas de place pour te coucher même d'abord.
Nous entendrons le reportage de Moki Edwin Kinzeka.
Ici, aux États-Unis, Hillary Clinton a été auditionnée sur Benghazi pendant 11 heures par le Congrès américain.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal. Dans l'actualité africaine, nous ouvrons par le Congo. L'opposition au référendum ce dimanche a annoncé hier soir l'annulation de la manifestation qu'elle prévoyait pour vendredi à Brazzaville en vue de dénoncer cette consultation populaire qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat en 2016. Vent debout contre ce qu'il qualifie de coup d'État constitutionnel, le FROCAD et une autre coalition d'opposition, l'Initiative pour la démocratie au Congo, ont tenté d'organiser des opérations de désobéissance civile. S'en sont suivis plusieurs jours de heurts entre les forces de l'ordre et les manifestants à Brazzaville et à Pointe-Noire, qui ont fait plusieurs morts.
Les Congolais sont appelés à se prononcer dimanche sur un projet de nouvelle constitution faisant sauter les deux verrous qui empêchent Denis Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat en 2016. Tout d'abord, la limitation du nombre des mandats présidentiels et ensuite l'âge maximal de 70 ans pour être candidat à la magistrature suprême. Vendredi est le dernier jour de la campagne en vue de cette consultation.
Direction la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent élire leur chef d'État ce 25 octobre. Si 7 candidats sont en lice, le président sortant Alassane Ouattara est donné favori. Il mise ainsi sur son bilan économique de grands travaux et d'exploitation des richesses naturelles. Notre envoyé spécial à Abidjan, Tatiana Mosso.
Addo joue de son bilan économique. Ressurgit alors son profil d'économiste reconnu au FMI, institution au sein de laquelle il était chargé de l'Afrique. En 4 ans, Alassane Ouattara a profondément transformé le pays et notamment le visage de la capitale Abidjan, toujours en pleine mutation. Misant sur les infrastructures, des zones entières ont été rasées pour faire place à de gigantesques chantiers de construction tels que l'autoroute reliant Abidjan et Yamoussoukro et le chantier énorme du troisième pont d'Abidjan. Mais il est reproché à l'actuel président candidat d'avoir privilégié les entreprises étrangères au détriment des entreprises ivoiriennes. Ces dernières ont d'ailleurs été l'objet de toutes les convoitises durant cette campagne électorale, chaque candidat y allant de ses promesses pour obtenir la confiance du vote du patronat ivoirien, non négligeable dans la croissance économique du pays. Enfin, dernier point noir sur le tableau plutôt positif du chef de l'État sortant, le chômage. Les chiffres annoncent environ 30 à 40% de taux de chômage et les jeunes diplômés sont les premiers touchés. Donner aux patrons ivoiriens les moyens d'embaucher la jeunesse de leur pays, voilà une promesse de campagne renouvelée par Alassane Ouattara. Mais aussi reprise en cœur par ses adversaires, reste à savoir si un deuxième mandat pour Addo, confiant de l'emporter par KO dès le premier round, lui permettra de tenir cette promesse. Tatiana Mosso à Abidjan pour VOA Afrique.
En Guinée, au moins 13 personnes ont été tuées en moins d'une semaine dans des violences survenues peu avant et peu après l'élection présidentielle du 11 octobre. C'est ce qu'a rapporté jeudi Amnesty International. Plus de détails avec Henri Francisque.
Ce bilan établi pour la période du 8 au 13 octobre comprend 6 morts à Conakry, la capitale, et au moins 7 à l'intérieur du pays. Selon un communiqué de cette organisation de défense des droits de l'homme, publié au dernier jour d'une mission d'enquête de 2 semaines en Guinée. Parmi les 6 personnes mortes à Conakry, 3 ont péri dans des affrontements entre sympathisants de partis rivaux. et qui ont aussi fait au moins 80 blessés, indique le texte. De même source, dans le reste du pays, au moins 7 personnes ont perdu la vie dans les mêmes circonstances. Les autres décès enregistrés dans la capitale sont 3 personnes tuées par les forces de sécurité, a précisé lors d'une conférence de presse Stephen Cockburn, directeur adjoint du bureau régional d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit de 2 hommes qui ont reçu des balles dans le dos et un autre jeune homme qui a été battu à mort avec des matraques, a expliqué M. Cockburn. Outre la capitale, il y a eu des troubles en lien avec la présidentielle à Banankoro dans l'Est, Kundara le Nord, Nzérékoré dans le Sud-Est, ayant causé au moins 7 morts, a ajouté François Patuel, chercheur pour Amnesty et membre de la mission d'enquête de l'ONG. Ce bilan porte à 13 au moins le nombre de personnes tuées pendant les périodes pré- et post-électorales, a-t-il ajouté.
Une héritière d'Omar Bongo Ondimba a demandé hier jeudi devant la justice française la communication de l'état civil complet du président Ali Bongo Ondimba dans le cadre de la succession de l'ancien président gabonais décédé en 2009. Les précisions d'Eddie Isango.
Il s'agit de Naïda Maïsha Bongo Ondimba, 25 ans, fille du défunt président. Elle a saisi en référé le tribunal de grande instance de Nantes après que le parquet local lui a refusé la copie intégrale de l'acte de naissance de l'actuel chef de l'État gabonais Ali Bongo. Le seul parmi les 54 héritiers déclarés d'Omar Bongo à ne pas avoir produit ce document. C'est ce qu'a souligné jeudi lors de l'audience l'avocat de la jeune femme Eric Moutet. L'acte de naissance du président gabonais est au cœur d'une vive controverse à Libreville, ses détracteurs l'accusant d'avoir menti sur ses origines. Au Gabon, il faut être né gabonais pour briguer la présidence et les prochains scrutins présidentiels est prévu en 2016. À l'origine de la polémique, un livre du journaliste français Pierre Payan, Nouvelles Affaires africaines, qui affirme que M. Bongo a falsifié son acte de naissance et serait en fait un enfant nigérian adopté pendant la guerre du Biafra à la fin des années 60, une thèse vigoureusement démentie par la présidence qui a porté plainte contre les journalistes. Claude Dumont-Bégui, l'avocate d'Ali Bongo, a accusé l'étudiante de 25 ans qui vit à Libreville d'être manipulée, je cite, par des torchons sur Internet et par les torchons de M. Payan et d'alimenter une polémique hystérique qui ne sert à rien. Fin des citations.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et l'actualité dans le reste du monde, ici aux États-Unis, pendant 11 heures hier, l'ex-chef de la diplomatie américaine Hillary Clinton a défendu devant des républicains hostiles ses décisions avant et après les attaques contre la mission diplomatique de Benghazi en Libye. Patiemment, avec des moments, une pointe d'agacement, Hillary Clinton a redit assumer ses responsabilités, admettant que la sécurité n'était pas au niveau. Au terme de cette audition fleuve, la candidate démocrate à la Maison-Blanche semblait avoir rempli ses objectifs. Ne pas trébucher, éviter les faux pas, ne pas s'emporter face à des républicains qui, toute la journée, l'ont accusée de négligence et de manipulation politique autour de la tragédie.
Dans un contexte de violence persistante entre Palestiniens et Israéliens, les musulmans sont appelés à manifester aujourd'hui vendredi, après la prière hebdomadaire dans les territoires et en Tunisie, tandis que le Quartet pour le Proche-Orient se réunira dans l'après-midi à Vienne. Jeudi, le secrétaire d'État américain John Kerry a appelé Israéliens et Palestiniens à s'écarter du précipice.
Les chefs des diplomaties américaines, saoudiennes, turques et russes se retrouvent aujourd'hui à Vienne pour des pourparlers inédits sur la guerre en Syrie. Entre le trio Washington, Riyad, Ankara, farouche adversaire du régime de Damas, et Moscou, son plus fidèle allié, le point d'orgue en sera en début d'après-midi, une réunion quadripartite consacrée au conflit syrien, une première diplomatique et le signe de l'internationalisation d'une guerre civile qui a fait plus de 250 000 morts depuis mars 2011.
L'ouragan Patricia a été classé en catégorie 5, maximale et potentiellement catastrophique, à l'approche des côtes mexicaines bordant l'océan Pacifique. Ont annoncé hier soir les météorologues. L'ouragan se trouve actuellement au sud-ouest du port de Manzanillo, avec des vents soufflant à 260 km/h.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place maintenant à l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Voici la Minute Éco, présentée aujourd'hui par Anastasie Tudiech.
Bonjour à toutes et à tous. Une délégation de chefs d'entreprise d'Afrique du Sud, emmenée par le vice-président Cyril Ramaphosa, était à Cuba aujourd'hui pour y explorer les opportunités d'investissement dans les télécommunications, la santé, le tourisme, les mines et l'industrie, selon un journal local. Cuba cherche à attirer des investissements pour sa zone franche industrielle. L'Afrique du Sud et Cuba ont rétabli leurs relations diplomatiques en 1994, après la fin de l'apartheid, et depuis, les deux pays ont collaboré essentiellement dans la santé et l'éducation. En 2008, l'Afrique du Sud avait annulé la dette de Cuba d'un montant de 117 millions de dollars. En 2014, les deux pays signaient un accord pour renforcer leurs échanges commerciaux de 8,6 millions de dollars, selon les chiffres officiels cubains. Nourrir l'Afrique, la conférence organisée par la Banque africaine de développement, la BAD, et le gouvernement du Sénégal rassemble jusqu'à vendredi près de 400 participants. Le but de la rencontre, faire face aux défis de la transformation de l'agriculture africaine pour lutter contre la faim et la pauvreté et stimuler la croissance et l'emploi sur le continent. À l'ouverture de la réunion, le président sénégalais Macky Sall a déclaré « L'agriculture est l'épine dorsale de l'Afrique. C'est un secteur qui procure environ le tiers du produit intérieur brut du continent et emploie plus de 60% de la main-d'œuvre africaine. Selon la BAD, le quart de la population africaine souffre de faim et de malnutrition, alors qu'elle continue d'importer pour 35 millions de dollars, plus de 30,8 milliards d'euros, de denrées alimentaires chaque année. Grant Shapps, le ministre britannique chargé du développement international, a lancé aujourd'hui la campagne Energy Africa qui vise à promouvoir l'accès universel à l'électricité sur le continent d'ici à 2030 à travers notamment la promotion de l'énergie solaire. Les plus pauvres en Afrique dépensent jusqu'à 66 fois plus pour accéder à l'électricité que nous autres Britanniques. C'est aujourd'hui le moment de corriger cela, a écrit le dirigeant britannique sur le réseau Twitter.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Anastasie. Et maintenant, notre page sport avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Claire.
Lionel Messi, indisponible pour plusieurs semaines.
Oui, blessé au genou gauche depuis fin septembre, il a déclaré jeudi ne pas se fixer de date particulière de retour, alors que l'Argentine et le FC Barcelone font face à des matchs importants en novembre, respectivement contre le Brésil et le Real Madrid. Le joueur aux 4 ballons d'or souffre d'une rupture du ligament collatéral interne du genou gauche depuis le match du Barça contre Las Palmas le 26 septembre, une blessure qui doit le rendre indisponible de 7 à 8 semaines selon son club, soit jusqu'à mi-novembre.
Le FC Barcelone annonce un record historique de son chiffre d'affaires.
Oui, 608 millions d'euros pour la saison 2014-2015, avec une chute de son bénéfice lié au paiement des transferts et de primes. Le bénéfice a cependant chuté de 36,5%, passant de 41 à 15 millions d'euros. Le recul s'explique par les nombreuses victoires sur le terrain qui implique une dépense supplémentaire pour les bonus des joueurs et par la sanction de la FIFA interdisant au club de recruter de nouveaux joueurs pendant un an pour avoir enfreint la règle de transfert de mineurs.
La Fédération allemande de football nie tout pot de vin pour l'attribution du Mondial 2006 ?
Oui, elle affirme que le versement controversé de 6,7 millions d'euros avait servi à s'assurer des subventions de la FIFA, un argument réfuté par cette dernière. L'Allemagne avait décroché l'organisation par 12 voix à 11 face à l'Afrique du Sud après la troublante abstention du Néo-Zélandais Charles Dempsey au dernier tour de scrutin.
Et nous terminons avec cette mauvaise nouvelle. Johan Cruyff est atteint de cancer.
Oui, l'icône du foot néerlandais qui avait mené une célèbre campagne publicitaire anti-tabac dans les années 90 souffre d'un cancer des poumons. C'est ce qu'a révélé hier son entourage cité par l'agence France Presse. Souvent surnommé le Hollandais volant, l'ancien joueur de 68 ans est l'incarnation du football total pratiqué à l'époque par l'Ajax d'Amsterdam. Considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire, Johan Cruyff était un fumeur invétéré, ont rappelé les médias néerlandais.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg, de nouveau avec vous. Nous passons maintenant au dossier du jour. Au Congo-Brazzaville, les autorités ont interdit les manifestations prévues ce vendredi dans le cadre du référendum constitutionnel de dimanche. Cette consultation risque de se tenir sans le dialogue exigé par l'opposition et la société civile, dialogue recommandé par l'ONU et la Commission de l'Union africaine. Des rencontres annoncées hier n'ont pas eu lieu, deux leaders de l'opposition ayant été contraints de rester chez eux par la force publique. Somme toute, l'opposition dénonce un effort du président Denis Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir au terme de son mandat en 2016. Notre correspondant à Brazzaville, Gwelad Goussou, fait le point dans un entretien avec Chérubin Dorsil.
Jeudi après-midi, une réunion a été programmée entre les deux camps, le camp de la majorité présidentielle qui devait être conduit par le ministre d'État Firmin Ayessa et on trouvait également le secrétaire général du parti Congolais du Travail, le parti présidentiel. Et de l'autre côté, les forces de l'opposition, donc tous les membres de l'opposition qui ont ces derniers temps organisé les manifestations sur l'ensemble du pays. Seulement, il s'est produit un incident au domicile de l'opposant Guy Brice Parfait Kolela et de André Okondi Salifa, qui étaient attendus justement pour que ces négociations commencent. Ils ont été donc empêchés par la force publique pour quitter leur domicile, d'après ce qu'a rapporté l'Église catholique. En effet, l'Église catholique, l'archevêque de Brazzaville, Mgr Arnatol Milando, a été désigné par le président Denis Sassou Nguesso pour pouvoir ouvrir la médiation entre les deux forces afin de voir comment apaiser la tension au niveau de Brazzaville.
Et le calme prévaut encore à Brazzaville?
Hier, jeudi, il y a eu le calme et aujourd'hui, en principe, ce vendredi, il devait y avoir des manifestations de fin de campagne référendaire, mais un communiqué du gouvernement annule donc toutes les manifestations. Un meeting a été prévu pour l'opposition, tout comme d'autres meetings également de la part du camp qui est prêt pour voter le oui. Donc aucune manifestation pour justement permettre que le dialogue ait lieu et que la tension soit vraiment apaisée à Brazzaville.
Donc le référendum aura bien lieu dimanche.
Pour l'heure, oui, c'est ce que le gouvernement annonce. Le référendum aura lieu le dimanche, mais on sait que le contexte est très difficile dans les quartiers sud de Brazzaville et dans les départements du sud-ouest où pratiquement les autorités administratives sont quasi inexistantes. Donc toute autorité administrative a été délogée par des manifestants. Il va donc certainement difficile de déployer le matériel électoral.
Donc alors, pour revenir sur ce qui s'est passé hier, est-ce qu'on peut dire que ce référendum va se dérouler sans un dialogue préalable?
C'est ce qui est souhaité en principe, et c'est l'appel que lance l'opposition, qu'il faut qu'il y ait d'abord un dialogue avant d'aller au référendum. C'est l'appel qui a été lancé par le secrétaire général des Nations Unies et par la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Nkosazana Dlamini-Zuma. Mais à 48 heures de scrutin, il est vraiment difficile aujourd'hui de dire si oui ou non, dimanche, il y aura ce référendum.
Gwelad Goussou, correspondant de VOA Afrique à Brazzaville.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Au Cameroun, les conditions de détention des prisonniers préoccupent les associations de défense des droits de l'homme. Entre autres griefs, la surpopulation carcérale et la violation des droits de l'homme en la matière. Les autorités camerounaises justifient cet état de choses par la montée en puissance de l'insécurité avec les exactions du groupe terroriste Boko Haram et les violences qui renaissent en Centrafrique. Le reportage à Yaoundé de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
Beaucoup de prisons au Cameroun sont construites avec une capacité d'accueil d'environ 500 détenus. Mais certaines, comme la prison centrale de Maroua, contiennent plus de 3000. Une situation due à l'insécurité ambiante dans le pays d'après Ngué Emmanuel, un des responsables de la prison.
La prison centrale de Maroua est pratiquement inondée de ces adeptes de secte Boko Haram. Ça nous donne trop de travail, nous avons perdu le sommeil. C'est invivable. Nous faisons avec les moyens de bord pour essayer de tout faire pour garder ces gens-là qui ne dorment pas et qui tentent tout le tour pour pouvoir s'en aller.
Parmi les prisonniers de ces pénitentiaires figure Eric Nguema, qui dénonce les procédures d'arrestation qui, selon lui, ne respectent pas les normes.
On sortait à l'école avec des camarades et puis on nous a ramassés. On a arrêté des braqueurs. On les a fait ancrer dans la cellule où il y avait des mineurs. On fait ancrer dans la même cellule que nous. Et les gars nous ont franchement baston là-bas dans, parce que c'était furax. Ils ont baston là-bas dans, j'ai encore des séquelles, j'ai encore des blessures au corps. Ils ont franchement baston là-bas. La nourriture qu'on t'apporte, les grands bandits sont dans la cellule, les récupèrent. Donc toi, tu ne manges pas. Tu n'as pas de place pour te baigner. Tu n'as pas de place pour te coucher même d'abord. C'est pas du tout beau à voir parce qu'on abuse de certains là-bas. Et sexuellement et moralement, tout ça.
Il parle aussi d'extorsion dans les prisons.
Tu dois payer d'abord les frais des cellules quand tu entres, aux gendarmes ou aux policiers. Tu payes encore au chef des cellules qui est à l'intérieur, qui est encore prisonné comme toi. C'est comme ça que ça se passe.
En septembre dernier, Amnesty International, dans son rapport publié, affirme que 50% des prisonniers sont des suspects Boko Haram. Le porte-parole du gouvernement camerounais Issa Tchirouma Bakary reconnaît le mal.
Il n'y a pas de conditions spécifiques régissant la détention des prisonniers Boko Haram au Cameroun. Ces prisonniers sont logés à la même enseigne que tous les autres prisonniers et traités en tant que tels comme des simples prisonniers de droit commun.
Les associations de défense des droits de l'homme déclarent que 70% d'entre eux attendent toujours d'être jugés. Moki Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Le PAM, le Programme alimentaire mondial, s'inquiète de la situation de fragilité alimentaire et nutritionnelle en Mauritanie. Plus d'un million de personnes seraient concernées. Dili Dico a joint le directeur du PAM en Mauritanie, Jeanne Souvento.
Notre rôle ici à donner notre soutien technique, et donner le soutien pour leur stratégie et aussi plaidoyer pour les ressources de côté gouvernement et également de notre bailleur de fonds. Actuellement, les ressources ne sont pas suffisamment. Le plan original côté PAM, on devrait adresser les problèmes de sécurité alimentaire sur 8 wilayas, mais en effet, on est très sincèrement sur le 5. Également, le gouvernement, il essaie de faire le meilleur. Mais presque une sur quatre citoyens est touchée par un problème de la sécurité alimentaire et c'est difficile d'avoir toutes les ressources pour couvrir tous les besoins.
Au PAM, comment faites-vous la distinction entre la fragilité alimentaire et la crise alimentaire? Quand est-ce qu'on bascule de la simple fragilité vers la crise?
Quelquefois, ce n'est pas si facile à dire quelle est vraiment la différence, mais actuellement quand même, les personnes qui sont en insécurité alimentaire sévère sont à peu près 200 000 personnes. Et en plus de ça, il y a presque 700 000 personnes qui ont un problème modéré.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on va plus vers une crise ou une amélioration de la situation en Mauritanie par rapport à l'insécurité alimentaire?
Actuellement, on est en train de travailler avec le gouvernement et les partenaires pour adresser ce problème. Bonne chose est que la saison de pluie a été relativement beaucoup mieux que l'année dernière. Et ça porte normalement un changement positif.
Est-ce que vous mettez en place des programmes de résilience afin que les Mauritaniens puissent s'autosuffire alimentairement?
Oui, ça c'est notre programme principal pour la population plus vulnérable mauritanienne. Renforcer par exemple leur système d'irrigation, qu'ils pourraient faire plus d'irrigation dans les zones où c'est possible, où ils peuvent utiliser le maraîchage par exemple, soit injection de cash pour les groupes de femmes qui peuvent utiliser les produits de base et éventuellement vendre des produits raffinés dans le marché par exemple.
Jeanne Souvento, directeur du Programme alimentaire mondial en Mauritanie.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a passé la journée d'hier, jeudi, à répondre aux questions des membres d'une commission spéciale d'enquête sur les attaques du 11 septembre 2012 contre le consulat américain de Benghazi en Libye. Ces attaques avaient coûté la vie à l'ambassadeur Christopher Stevens et à trois autres Américains. Le compte-rendu de Lionel Gaïma.
La commission est dominée par les républicains de la Chambre des représentants. Son président, Trey Gowdy, est conscient des allégations selon lesquelles l'enquête actuelle répond à des considérations de politique politicienne. Il a ouvert ses audiences publiques par une défense énergique de sa commission et de ce qu'il a différencié des autres commissions d'enquête. Selon lui, les précédentes n'étaient pas exhaustives. Cette enquête, a ajouté M. Gowdy, ne visait pas personnellement Mme Clinton, mais plutôt à découvrir la vérité sur la demande du consulat américain pour davantage de sécurité, équipement et personnel. Elle vise aussi à savoir ce qui était discuté à Washington pendant l'attaque. M. Gowdy a également fait allusion à la controverse sur les emails de Mme Clinton, à qui on reproche d'avoir eu recours à des comptes privés pendant qu'elle était à la tête du département d'État. Madame la secrétaire d'État, pas un seul membre de cette commission ne s'est engagé à faire une enquête sur vous ou vos emails. Nous nous sommes engagés à mener une enquête et honorer ainsi la mémoire de quatre personnes que nous avons envoyées dans un pays dangereux pour nous représenter. Madame Clinton, qui est candidate à la présidentielle de 2016, était chef de la diplomatie américaine lors de ces événements. Elle a adopté un ton conciliant dans ses remarques, rendant elle aussi hommage aux quatre disparus et promettant d'aider la commission à déterminer les facteurs qui ont mené aux attaques de Benghazi.
Malgré toutes les précédentes enquêtes et tous ces discours sur des agendas partisans, je suis ici pour rendre hommage à ceux que nous avons perdus et faire tout ce que je peux pour aider ceux qui continuent d'être au service de leur pays. Le défi pour vous, membres de cette commission, et le même que je me suis fixé, soyons à la hauteur de la confiance que nous fait le peuple américain. Il attend de nous de diriger, de tirer les bonnes leçons qui s'imposent, de nous hisser au-dessus de la politique partisane et de faire preuve de qualité d'homme d'État.
Madame Clinton a aussi précisé que le risque zéro n'existait pas pour les diplomates à l'étranger. Elle a expliqué que l'Amérique doit diriger dans un monde dangereux. Nos diplomates doivent continuer à nous représenter dans des lieux dangereux. Pour l'ancienne chef de la diplomatie américaine, l'ambassadeur Stevens comprenait aussi que nous ne pouvons jamais empêcher tous les attentats terroristes ou obtenir une sécurité parfaite et que nous devions inévitablement accepter un niveau de risque. Chris Stevens savait que les diplomates devaient travailler dans de nombreux endroits où nos soldats ne sont pas déployés, où il n'y a pas de soldats au sol et où la sécurité est loin d'être garantie. D'ailleurs, il s'était porté volontaire pour ces missions. Si les républicains assurent être en quête de vérité, les démocrates les accusent d'acharnement contre la favorite de l'investiture démocrate pour la Maison-Blanche, le député Elijah Cummings, principal membre démocrate de la commission. Le problème est que le groupe parlementaire républicain n'a pas eu la réponse qu'il voulait des précédentes enquêtes. Alors, il a créé une commission spéciale sans règles, ni délai fixe, un budget illimité pour la jeter sur vous, Madame la secrétaire d'État, parce que vous briguez la présidence des États-Unis. Les démocrates n'en veulent pour preuve que des récentes déclarations du leader de la majorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy, qui semblait se vanter dans une interview à Fox News que la déclaration de cette commission spéciale par ses collègues républicains avait fait baisser la cote de popularité de Mme Clinton. En tout état de cause, les sondages se sont améliorés pour Hillary Clinton depuis le débat télévisé de la semaine dernière, un facteur peut-être dans la décision du vice-président Joe Biden de ne pas se lancer lui-même dans la course.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Michel Joseph était à la réalisation, John Ellison était à la console, présentation Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24h sur 24 grâce à notre site internet voaafrique.com et grâce à notre page Facebook. Très bientôt. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.